Et l'invité du grand entretien de la matinale est aujourd'hui la secrétaire d'État chargée des affaires européennes. Questions et réactions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter. Bonjour Amélie de Montchalin.
Bonjour.
Beaucoup de dossiers à aborder ce matin avec vous, mais commençons par ce qui s'est passé hier et qui est sans précédent. Malgré la pression d'Emmanuel Macron et de la France, le Parlement européen a nettement rejeté la candidature de la Française Sylvie Goulard au poste de commissaire au marché intérieur. C'est la première fois qu'un candidat français subit un tel sort. Alors comment qualifiez-vous ce vote des parlementaires qui sonne comme un désaveu et une claque ?
C'est d'abord une crise institutionnelle majeure pour l'Europe. Parce que sans commissaire français, la Commission ne peut pas se mettre en route. C'est aussi une crise parce que c'est la suite de ce qui s'est passé au Conseil européen. J'étais venue d'ailleurs vous en parler. Il y a eu le pire de l'Europe pendant un jour et une nuit. Il y a eu des batailles entre les partis, entre les personnes. Et finalement, vous savez, il y a eu un sursaut. Et la proposition qui a été faite par Angela Merkel, par Emmanuel Macron, c'était une proposition de consensus. C'est-à-dire, on passe au-dessus des partis et on met surtout une équipe capable de porter le projet ambitieux, qui est très alimenté par la France, c'est vrai, qui a la faveur du vote des citoyens et qui d'ailleurs ensuite a fait l'unanimité aussi auprès des chefs d'État. Et quand on a fait ça, ça a dérangé.
Mais est-ce le pire de l'Europe qu'on voit là ou le meilleur de l'Europe, à savoir un Parlement européen qui montre qu'il n'est pas aux ordres, qu'il joue pleinement son rôle, que face à une candidate qui a démissionné du gouvernement en France pour une mise en examen, pourquoi appliquer une
règle ?
Effectivement, vous avez raison, je me reprends sur ce point-là. Mais en tout cas, un Parlement qui a refusé un double standard entre la France et l'Europe et qui a noté aussi un risque un soupçon de conflit d'intérêts.
J'ai été parlementaire, il y a encore 6 mois j'étais à l'Assemblée nationale, donc j'ai un respect immense pour les parlementaires, pour leur indépendance et leur capacité de jugement.
Là c'est le cas.
Sylvie Goulard est passée devant 3 commissions. Elle a été auditionnée pendant 6 heures. Elle a notamment été examinée par la commission des affaires juridiques, qui a la mission dans ce processus de regarder s'il y a des conflits d'intérêts. Ils en ont d'ailleurs trouvé pour le candidat roumain et pour le candidat hongrois. Manon Aubry, par exemple, est dans cette commission. Et cette commission n'a rien trouvé à redire sur les conflits d'intérêts. Donc j'ai un grand respect pour le Parlement, pour son fonctionnement, mais ce que je sais, c'est qu'un Parlement n'est pas un tribunal où on juge des affaires qui ne sont pas jugées par les tribunaux, justement, les tribunaux de la justice.
Dernier mot revient au Parlement, qui a exercé ses pouvoirs.
Très bien. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui crient victoire. Bellamy, Jadot et d'autres.
Non, je dis pas ça. Pouvoir entre les mains du Parlement européen. Le Parlement en a usé de manière souveraine.
Eh bien, ce pouvoir a été utilisé. Certains, d'ailleurs, s'en réjouissent et crient victoire. Ce que je dis, c'est que cela crée une crise institutionnelle en Europe majeure, puisque la Commission ne peut pas fonctionner, ne peut pas se mettre en route. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on la résolve. Il faut qu'on la résolve avec calme, sans colère. Mais il faut qu'Ursula von der Leyen nous dise ce qu'elle attend de la France. Parce que c'est elle qui a piloté son équipe, c'est elle qui fait une proposition, c'est elle qui a organisé les choses. Et nous avons, nous, en France, à recevoir de sa part les instructions. Pourquoi ? Parce que la France, aujourd'hui, a proposé, et Emmanuel Macron l'a très bien dit hier, 3 candidats pour dire à Ursula, voilà, von der Leyen, vous êtes président de la Commission. Nous, la France, on porte des ambitions. On est prête à vous aider à les mettre en œuvre, au service des citoyens. On pense qu'il y a un secteur qui est très important, qui est celui de notre souveraineté industrielle, de défense, notre souveraineté économique. Comment on crée des emplois demain ? Comment on résiste aux GAFA ? Et on envoie une personne compétente. Ursula von der Leyen a bien pris la décision.
Donc c'est sa faute à elle. C'est pas de la faute de la France d'avoir présenté une candidature faible et potentiellement problématique.
Le président a proposé 3 candidats. Parce qu'il lui a dit, chacune de mes candidates ou candidats a des forces et des faiblesses, a des compétences, peut s'occuper de tel ou tel domaine. Ursula von der Leyen connaît les ambitions françaises, connaît les projets où nous voulons servir les citoyens. Mais moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que ceux qui crient victoire au Parlement, ils ont souverainement fait leur choix. Ils n'ont pas les clés en main pour résoudre cette crise. Et donc cette crise, elle doit être résolue au plus haut niveau, par Ursula von der Leyen, par le président de la République. On doit attendre d'elle des instructions. Comment elle veut relancer la commission qu'elle a proposée. Et ensuite, comme le dit le président, il faut qu'on comprenne, il y a derrière ça, au fond, on voit des partis politiques européens qui sont dérangés. Ils sont dérangés parce que le compromis du Conseil européen, c'est quelque chose qui passe au-dessus de leur tête, qui leur dit, à un moment donné, ce que vous nous proposez, ça divise l'Europe, ça ne permet pas de faire le consensus. Et on a aussi aujourd'hui quelque chose qui dérange, c'est que le projet qu'on porte, oui, le projet français, on y a mis beaucoup de nous-mêmes, on a mis beaucoup d'ambition. Et effectivement, il y a beaucoup d'idées françaises dans le programme de travail. Et donc, il ne faut pas que ça soit perdu. Pour moi, la défaite, ce serait que nos idées, on les range dans un placard et qu'on dise au fond, on continue avec le ronron européen.
Mais vous êtes sûr que c'est vraiment le sujet ? Est-ce que il faut voir un complot là où il y a l'exercice d'un droit autour de deux problèmes, disons, éthiques ?
Mais il n'y a pas de complot, mais je dis juste, la Commission chargée au Parlement européen de regarder s'il y avait un conflit d'intérêts n'a rien trouvé à redire sur la candidate française. En revanche, elle a trouvé des choses à redire sur la candidate roumaine et sur le candidat hongrois. Ça veut donc dire que sur le pur sujet du conflit d'intérêts, de l'éthique,
oui, donc cette commission... Selon vous, c'est injuste qui est arrivée à Sylvie Goulard.
Ce que je vois, que c'est une crise. Moi, je ne vais pas refaire le match, je ne suis pas là pour refaire les auditions.
C'est injuste ou pas ? À vous entendre, la réponse est oui.
C'est une défaite européenne. On essaye de travailler pour les citoyens. On a une énorme crise de confiance avec les citoyens européens qui nous disent « Votre truc là-bas, on ne comprend rien. C'est à Bruxelles, ça ronronne, ça avance pas vite. Regardez, les eurosceptiques... » prospère sur cette idée d'une Europe qui n'est pas efficace. On essaye de mettre en place des choses, de porter des ambitions sur, justement, je vous dis, l'industrie, la création d'emplois, l'ambition sociale. Sylvie Goulard aurait eu la responsabilité de s'occuper notamment de la protection des droits des travailleurs des plateformes numériques. Mmh. On est sur des sujets concrets. Alors, moi, je peux ici refaire, si vous voulez, des auditions, c'est pas mon rôle. En revanche, mon rôle, c'est de vous dire que, avec le président de la République, avec Ursula von der Leyen, on a un devoir aujourd'hui, c'est de résoudre cette crise, de lui apporter des réponses rapides. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est pas seulement les institutions européennes, le Parlement, le Conseil qui ont des problèmes. C'est les citoyens pour qui on est là pour travailler, pour leur apporter des résultats. Vous savez, je fais un tour de France pour voir comment les fonds européens, comment les politiques européennes se déploient en France. Il y a des gens dans les missions locales, dans les zones rurales, qui attendent des outils européens de soutien pour les jeunes décrocheurs, pour les agriculteurs, pour les territoires où on recrée de la dynamique économique. Ils n'en ont rien à faire des petits jeux politiques. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on résolve cette crise.
La France sort-elle affaiblie de cet épisode ?
On serait affaibli si on n'est pas capable, effectivement, de pouvoir défendre notre vision sur l'industrie, sur la défense, sur les emplois de demain et qu'est-ce qu'on fait par rapport aux géants du numérique. L'affaiblissement, ce serait qu'on nous dise, après cette affaire, eh bien finalement, occupez-vous d'autre chose.
Surtout en tout cas, la Commission est affaiblie, à vous entendre, avant même d'être en action.
Mais la Commission, aujourd'hui, elle ne peut pas fonctionner. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si cette crise n'est pas résolue, s'il n'y a pas un consensus, si on n'arrive pas à remettre au fond les uns et les autres autour d'une table pour dire on doit travailler pour les citoyens et pas se mettre dans une espèce de rapport de force, bien sûr que c'est pas seulement la Commission, c'est toute l'Europe. Moi, vous savez, je passe ma vie dans des réunions avec des ministres européens pour essayer de trouver des majorités. Il faut quand même que ça puisse fonctionner. Sinon, c'est des réunions pour rien. Sinon, c'est du temps perdu.
Qui allez-vous proposer maintenant ? La France va proposer... quel candidat ou candidate ?
Ça dépend de ce qu'Ursula von der Leyen nous dit.
Mais ça veut dire quoi, ça ? Vous attendez qu'elle vous dise quoi ?
Mais elle peut nous dire, je veux un homme, je veux une femme, je veux pouvoir échanger avec vous. Elle est là.
C'est fini, la France ne propose plus, c'est elle qui dispose.
Mais c'est pas comme ça. Ursula von der Leyen doit s'échanger avec le président de la République pour échanger avec lui sur la voie de sortie face à cette crise. Donc la question, c'est pas de savoir qui la France propose, c'est de savoir qu'est-ce que Ursula von der Leyen attend de nous. Et donc, quand on nous dit « vous êtes des gens arrogants » parce que... Mais il faut la dynamique européenne, aujourd'hui, elle est dans les mains d'Ursula von der Leyen. On lui a proposé 3 candidats, on lui a montré comment ils avaient des forces et des faiblesses, comment ils avaient des compétences, quels étaient leurs atouts. Elle a choisi, parmi ces 3 candidats, celle qui a été hier retoquée au Parlement européen. C'est à elle d'échanger avec notre président sur la suite qu'elle veut donner à cette affaire.
Est-ce que le portefeuille restera de même taille ?
Mais c'est l'enjeu, c'est que moi je vous dis, il faut qu'on puisse continuer à porter pour les Européens l'ambition qu'on a sur ce sujet. Vous savez, le marché intérieur...
C'est un portefeuille gigantesque.
Les gens nous disent, ah c'est un truc ultra-libéral, c'est ça, c'est le marché qui gagne. Le marché intérieur, c'est ce qu'a créé Jacques Delors, en disant, il faut qu'on crée en Europe un espace où on met en commun des normes pour qu'on ne se fasse pas de concurrence déloyale entre nous. Est-ce qu'on est arrivé au terme de cette entreprise ? Non, parce qu'il y a encore de la concurrence déloyale. Parce que les entreprises françaises n'arrivent pas à atteindre tous les citoyens consommateurs du marché. On le voit bien dans le domaine du numérique, des énormes enjeux. Qu'est-ce que ça veut dire le numérique en Europe ? On a des enjeux éthiques, comment on régule les algorithmes, comment sur la défense on se crée une vraie souveraineté. Donc oui, pour nous la bataille, si c'est une bataille, c'est de considérer que nous ne renoncerons pas à notre ambition européenne. Nous ne renoncerons pas à notre projet et nous ne renoncerons surtout pas à agir pour les citoyens européens qui attendent de nous des résultats.
Le président de la République et Viktor Orban déjeunent aujourd'hui ensemble à Paris, à l'Élysée. Est-ce que la Hongrie pourrait présenter une candidate, ce qui permettrait à la France de présenter un candidat après Sylvie Goulard ?
Là aussi, je vais vous dire quelque chose. Viktor Orban a eu des discussions avec Ursula von der Leyen, a proposé une candidature qui doit elle-même maintenant passer par le même processus, regarder s'il y a des conflits d'intérêts, puis être auditionnée sur le fond. C'est pas les chefs d'État entre eux qui nomment les commissaires. J'insiste sur ce point parce que c'est pas de la magouille. Les chefs d'État et de gouvernement ont choisi Ursula von der Leyen pour prendre la tête de la commission. Elle a pendant tout l'été réfléchi à comment elle voulait l'organiser. Elle a réfléchi à la cohérence, elle a réfléchi au profil dont elle avait besoin. Elle a échangé avec ensuite chacun des chefs d'État et de gouvernement qui lui ont fait des propositions. La France en a fait 3. Et j'imagine que Viktor Orban et Ursula von der Leyen travaillent ensemble. C'est pas à l'Élysée que ça se discute. On donne une image totalement fausse. L'Europe fonctionne par consensus.
Il y a un dissensus là. Hein.
On a une ambition. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une crise, et donc on va la résoudre par consensus.
Venons-en, je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions d'auditeurs sur ce sujet-là. Venons-en au Brexit, Amélie de Montchalin. Au téléphone dimanche dernier, Boris Johnson a dit au président Macron, alors je vais le citer, « L'UE ne devrait pas être persuadée que le Royaume-Uni pourrait rester dans l'UE après le 31 octobre. » Parlons clairement, je vais essayer de traduire. Dites-moi si je me trompe, ça veut dire que nous allons vers un no deal ?
Non, déjà il faut parler vrai aux Français, je pense que plus personne ne comprend plus rien à quoi que ce soit.
C'est compliqué, je suis resté sur le dernier épisode
voilà.
En date.
Hein. Oh, il y en a eu d'autres depuis, je vous rassure, oui. Donc il y en a tous les jours. Mais bon. Je pense qu'on va pas faire la chronique ici de la vie parlementaire et de la vie politique britannique.
C'est compliqué, essaye de le faire, mais c'est compliqué. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on va vers no deal ou pas ?
J'ai la responsabilité ce matin, je pense, à votre micro, de dire les choses clairement. Il y a 3 scénarios devant nous. Il y a le scénario qui est un chemin étroit, qui est encore possible, que nous souhaitons depuis 3 ans, c'est de faire les choses de manière ordonnée. Et donc que nous trouvions un accord. Il y a des discussions hier entre le Premier ministre irlandais, Boris Johnson. Il y a aujourd'hui des discussions très poussées qui ont lieu entre Michel Barnier et mon homologue britannique, qui est ministre des Affaires européennes au Royaume-Uni. Et donc nous travaillons un accord. Pas n'importe quel accord, pas n'importe quelle condition. On va pas se coucher alors que ça fait 2 ans et demi qu'on a posé des principes simples. On veut la paix en Irlande. On veut protéger nos entreprises face à la concurrence déloyale et on veut que dans le futur, notre relation future soit équilibrée. Ça vous semble, c'est pas très compliqué. Mais donc, ce chemin-là, on le poursuit. Il y a un deuxième scénario, c'est le scénario du no deal. C'est le scénario où on n'arrive pas à se mettre d'accord parce qu'on a posé des principes et que les Britanniques, d'une certaine manière, ne nous suivent pas.
N'est-il pas de plus en plus évident, ce scénario-là, du no deal ?
Il est probable.
Il est probable.
À ce stade, si les négociations dont je vous parle ne se passent pas comme on pourrait espérer qu'elles se passent, s'il n'y a pas de part et d'autre de la table, et surtout du côté britannique, l'envie d'aller vers justement des compromis, parce que nos principes sont clairs, ils sont compréhensibles et ils sont dans l'intérêt des Européens, c'est d'ailleurs pour ça que depuis 3 ans, tout le monde est d'accord. Alors le no deal est possible. Je voudrais parler aux Français de ce que ça veut dire le no deal. Ça va secouer. Ça va secouer parce que ça ne pourra pas être le lendemain aussi bien que la veille. Donc nous, le gouvernement, on se prépare. On se prépare pour organiser ce qui se passe dans les ports, pour indemniser les secteurs où il peut y avoir des répercussions directes. Je pense aux pêcheurs. Vous savez, moi, le premier déplacement que j'ai fait en tant que ministre, c'est à Boulogne-sur-Mer. Parce que ce sont des gens qui sont directement impactés par un éventuel no deal. Donc, je ne vais pas dire ici à votre micro, ça va être formidable. Ça va être compliqué. Mais on s'est préparé et on se donne les outils. Et puis, il y a un troisième scénario. C'est qu'on se dise finalement... Et c'est, vous savez, des Britanniques, notamment des membres de l'opposition britannique, attendent ça, c'est qu'on donne plus de temps.
Un nouveau report.
Mais moi, sur ce sujet, j'ai une question quand même fondamentale. Pourquoi donner plus de temps ? Si c'est du temps pour du temps, ça fait déjà 1 an que ça dure, ça fait même 3 ans que ça dure, et on n'a pas bien compris. Donc il faut qu'il y ait des justifications. Et donc ce que je veux dire aux Français aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas poursuivre l'incertitude, on ne va pas se lancer dans un processus sans fin, si on n'a pas, j'allais dire, une forme de garantie, que ça nous aide vraiment à dépasser la crise.
Xavier Bertrand, qui est l'élu d'une région directement concernée, s'inquiète pour les entreprises. Si des entreprises de sa région sont pénalisées, il ne va pas falloir attendre 1, 2 ou 3 mois, dit-il, pour se rendre compte qu'elles ont besoin d'être soutenues. C'est donc un plan d'urgence déployable en temps réel qu'il demande. Il est prêt, ce plan,
existe.
Ou pas ?
Il ça existe. Ça tombe bien, parce que quand les gouvernements ont travaillé avec la Commission, on a un plan de contingence, c'est un grand mot pour dire qu'on a un plan de soutien, évidemment, aux secteurs, aux régions les plus impactées. Vous savez, parfois j'entends et je regarde la presse britannique...
Ça va secouer, mais on est prêt en France ? Vous diriez que la France est prête
oui,
à un
no
deal ?
On est prêt. On est prêt au sens où on a pris toutes les dispositions, à la fois pour protéger les citoyens, pour que les Britanniques qui habitent en France, pour que les Français qui habitent au Royaume-Uni soient protégés. On a fait des plans pour protéger les entreprises, on a mis de l'argent de côté, on a des dispositifs de côté, on a même pris des ordonnances, vous savez, d'urgence, qui peuvent être déployées, qui ont été votées au cas où. Donc on s'est préparé. Maintenant, on est quand même le pays qui est à 50 km des rives du Royaume-Uni. 50 kilomètres qui ne vont pas changer. C'est pas parce que un jour, il y a une décision au Parlement britannique de dire finalement, on sort, que le tunnel va être rallongé en nombre de kilomètres. Donc, on est des voisins proches. Là où Xavier Bertrand a raison, c'est, on sait que ça va secouer, mais on sait aussi qu'on va être extrêmement soudés, que tous les ministres, dans chacun de leurs secteurs, aujourd'hui, ont des mesures, ont travaillé pour nous assurer que, eh bien, nous accompagnons le plus possible ceux que ça met en difficulté.
Deux questions avant de donner la parole aux auditeurs très nombreux de France Inter qui veulent s'exprimer ce matin. Le président Erdogan a poursuivi et poursuit son offensive contre les Kurdes du nord de la Syrie. Le président de la République a déclaré hier que la Turquie prend le risque d'aider Daesh à reconstruire son califat. Que fait concrètement la France pour éviter ça?
Ce qu'on fait, c'est qu'on croit au multilatéralisme.
Oui, on voit dans quel état il est.
Et on va mettre chacun au pied du mur. Chacun en face de ses responsabilités. Ça fait 5 ans qu'il y a une coalition qui se bat contre le terrorisme en Syrie. Dans cette coalition, il y avait les Turcs, il y avait les Américains. Aujourd'hui, on va les mettre au pied du mur. On leur dit, on n'a pas fait tout ça pour en arriver à ce point-là. Où certains agissent, font des offensives, et d'autres laissent faire. Donc, ça c'est, comme l'a dit Jean-Yves Le Drian, très clairement hier soir, c'est notre priorité. C'est que chacun prenne ses responsabilités. Notre combat, c'est un combat contre le terrorisme. C'est surtout un combat parce qu'on sait qu'on ne résoudra pas la situation en Syrie par les armes. Il y a un processus qui a commencé en 2012 à Genève. Il y a eu des résolutions au Conseil de sécurité innombrables. Et aucune d'entre elles ne dit on va résoudre ça par les armes. Les forces syriennes...
Mais avec quel espoir, une fois que vous mettez les gens au pied du mur, des gens qui ont repris leur liberté et agissent comme ils le souhaitent, une fois que vous avez dit ça, il va se passer quoi?
Mais vous savez, dans l'ordre multilatéral, il y a des processus coordonnés de sanctions, il y a des processus coordonnés de réaction, il y a des processus coordonnés pour que...
Il pourrait y avoir sanctions de l'UE, par exemple, de la France ou de l'UE contre la Turquie?
Ce sera débattu au Conseil européen la semaine prochaine, évidemment.
Et ça, c'est sur la table?
Évidemment que c'est sur la table. Vous imaginez bien qu'on ne va pas rester impuissant face à une situation qui... non seulement est absolument choquante pour les civils qui sont soumis à ça, qui est choquante pour les forces syriennes qui ont depuis 5 ans accompagné les travaux de la coalition, mais c'est aussi surtout choquant pour la stabilité de la région. On est dans une région, on le sait, qui est extrêmement fragilisée. On a mené un combat contre Daesh qui a permis d'en réduire au maximum les capacités. Aujourd'hui, on lui donne toutes les occasions de se relancer. Donc, la condamnation, elle est ferme, mais elle n'est pas juste ferme dans les mots. On va agir. Vous imaginez bien qu'on va pas rester là autour de la table en se disant, bah voilà, on constate que c'est compliqué.
Le président de la République, l'ancien président François Hollande, demande également à suspendre la participation de la Turquie à l'OTAN. Est-ce que ça aussi, c'est sur la table?
Toutes ces discussions-là vont avoir lieu au niveau européen.
Mais c'est sur la table. Enfin, je veux dire, rien n'est fermé.
Mais aujourd'hui, rien n'est fermé parce que tous discutent. C'est pour ça qu'on a un Conseil de sécurité, c'est pour ça qu'on a une Union européenne, c'est pour ça qu'on a fait une déclaration unie des 28 pays pour dire d'abord, on arrête ça tout de suite. C'est le feu immédiat. Parce qu'on ne peut pas continuer déjà non plus à se parler quand tout ça est en cours.
On parle de 2000 soldats américains en Syrie, hein, selon les chiffres qu'on peut voir, donnés notamment par l'AFP. L'Europe ne peut pas envoyer 2000 soldats sur place pour remplacer les 2000 soldats américains s'ils venaient tous à être retirés par Donald Trump.
Ce qui est certain, c'est que je pense que le but aujourd'hui, ce n'est pas d'aller militariser encore plus un endroit qu'il est déjà beaucoup trop.
Non, je dis à la place.
Tout ça, ça se discute. Si on doit déployer des forces, vous savez, ça s'appelle par le Conseil de sécurité de l'ONU. On ne déploie pas des forces
mais
dans un pays...
L'Union a 2000 soldats éventuellement pour prendre la relève des Américains si jamais ce scénario était sur la table.
Cette capacité d'intervention, c'est pour ça que le 14 juillet dernier, quand vous étiez tous, on a tous regardé le défilé, il y avait 10 chefs d'État qui ont regardé le défilé ensemble. Pas parce que c'était sympathique et qu'on trouvait que les avions de la patrouille de France cette année étaient plus jolis que les autres. Parce qu'il y avait 10 forces armées européennes qui, ensemble, travaille, et c'est pour ça que le président de la République sur ce sujet-là, c'est pour ça qu'on en revient au sujet de la défense européenne. Il faut qu'on ait de la souveraineté, il faut qu'on ait capacité d'être autonome, et donc l'initiative européenne d'intervention, aujourd'hui je ne vous dis pas qu'elle va le faire, mais on a créé des mécanismes pour nous permettre dans des situations, si on le décide ensemble, si le Conseil de sécurité considère que c'est une bonne idée, de pouvoir le faire.
Allez, on est au standard maintenant. Bonjour Marie-France. Marie-France, vous nous appelez de Bordeaux et nous vous écoutons.
Oui, bonjour et merci à France Inter pour la matinale. Je voudrais demander à Madame Montchalin, elle nous a parlé des effets négatifs pour les citoyens qu'on ait réfuté Maboulard qui est compétente pour aider les problèmes en Europe. Est-ce qu'elle ne pense pas qu'il y a un côté positif? Ça peut redonner confiance aux citoyens de voir que quelqu'un qui est éthiquement, et on ne parle pas juridiquement, éthiquement contestable, ne soit pas retenu. D'abord la confiance, et après on appréciera les compétences. Voilà.
Merci pour cette question. Marie-France, Amélie de Montchalin vous répond.
Je pense que vous avez raison sur le fait qu'il faut qu'on recrée de la confiance. Je pense qu'on recréera cette confiance si on est capable de résoudre la crise qui est ouverte, de fait, puisque la Commission ne peut pas travailler sans commissaire français dans les jours qui viennent. Et donc, c'est ce à quoi on va s'atteler. Je pense effectivement qu'il faut qu'on puisse continuer à travailler pour les citoyens européens. Et donc, quand la Commission se met en route, et j'espère que ça sera rapidement, eh bien, nous puissions travailler pour que, comme vous le dites, les problèmes qui se posent en Europe, d'emploi, d'industrie, de création d'une souveraineté numérique, de savoir de pouvoir nous protéger face à tous les géants à la fois industriels chinois et américains. Et donc, oui, il faut qu'on crée de la confiance. Si vous pensez que aujourd'hui ça crée de la confiance citoyenne, eh bien, je pense que c'est une démarche qu'il faut apprécier. Maintenant, moi, ce que je cherche, c'est que ça puisse aussi fonctionner vite. Et je pense que la confiance s'érodera vite si on n'est pas capable de résoudre cette crise.
Pourquoi dites-vous, c'est ce que vous avez dit, et plusieurs auditeurs sur l'application de France Inter posent la question, qualifiée de pire de l'Europe, en début d'entretien, les tractations entre partis politiques, qui sont pourtant au fondement de la démocratie.
Je faisais référence à ce qui s'est passé la nuit du Conseil européen de fin juin, début juillet. Vous aviez des chefs d'État et de gouvernement entourés de leurs équipes qui, au fond, donnaient l'impression de ne plus rien avoir à faire de ce qu'étaient les élections européennes, de ce qu'avaient envoyé comme signal les électeurs. Les électeurs, ils se sont mobilisés plus que prévu. Ils ont voté plus que prévu pour les forces, je veux dire, pro-européennes et finalement moins que prévu pour les forces eurosceptiques. Ils ont voté plus que prévu pour les Verts. Ils nous ont dit, voilà, il vous faut une ambition climatique. On veut croire à l'Europe. Et nous, ce que je vous ai dit, j'ai vu ça pendant une nuit, un jour, à tel point que Angela Merkel et le président de la République française sont sortis de la salle en disant « on arrête, on va tous dormir chez nous une nuit et on revient ». Parce que c'était le pire de l'Europe. On n'était plus du tout sur ce que les citoyens attendent, on n'était plus sur ce qu'il fallait qu'on mette en avant, plus sur les priorités. On était de savoir si le PPE, le Parti Socialiste Européen, allait bien se répartir les postes et qui avait la primauté. Ça, c'est le pire de l'Europe. Parce qu'au fond, trop souvent, l'Europe, depuis des années, elle a ronronné sur le fond. Et elle a surtout été préoccupée de s'assurer que les partis s'y retrouvent et que ça n'avance pas trop vite. C'est contre ça qu'on se bat.
Autre question au standard. Dites-moi qui est là, Benjamin. Qui ça? Renaud, excusez-moi. Bonjour Renaud, bienvenue.
Oui, bonjour, vous me prenez par surprise.
Je l'ai été aussi. Allez-y Renaud.
Très bien, alors écoutez, à 8h43, j'ai enfin entendu parler de transition écologique dans la bouche de votre intervenante. Alors, j'ai entendu parler dans le projet européen défendu par la France de numérique, d'industrie, de marché, d'emploi. C'est très bien, c'est très bien. Moi, il me manque un petit peu quand même la transition justement écologique et énergétique. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'emploi, d'industrie et de marché, la transition écologique, ça permet aussi de renforcer la compétitivité des entreprises. On ne peut pas en France avoir une feuille de route de l'économie circulaire, des engagements vis-à-vis des différentes COP qui se succèdent, et puis en parallèle au niveau européen, continuer à avoir un désavantage concurrentiel par rapport aux autres pays qui, eux, ne mettent pas en place...
Alors dites-nous, Renaud, est-ce que vous avez une question? Parce que ça, c'était le préalable.
Alors ça, c'est le préalable.
Alors dites-moi vite, dites-nous vite.
J'aimerais être rassuré et savoir si la transition écologique, notamment du monde économique, fait bien partie du projet européen qui est défendu par la France.
Totalement. Merci, et Amélie de Montchalin.
Totalement, et je vous remercie de pouvoir me laisser le temps d'aller sur ce sujet. Quand je vous parle d'une industrie, c'est pas de la même industrie qu'hier. C'est une industrie qui doit être effectivement cohérente avec le premier objectif de l'Union européenne, qui est d'assurer la transition écologique et climatique. Dans l'agenda stratégique sur lequel les chefs d'État et de gouvernement se sont mis d'accord à l'unanimité, la première priorité, c'est la transition. La France aujourd'hui porte une position extrêmement ambitieuse sur le budget européen. On veut que ce budget européen soit un budget de transition, avec des moyens financiers, avec des nouvelles ressources. On veut mettre une taxe carbone aux frontières. On est en train d'en discuter avec les Allemands qui viendront pour un conseil des ministres franco-allemands la semaine prochaine. On veut verdir la PAC, pas pour la peindre en vert, mais pour nous assurer qu'on donne aux agriculteurs les moyens de faire cette transition. On veut que dans toutes les politiques européennes, l'impératif absolu de transition écologique soit atteint. Et dans mon action au niveau européen, c'est toujours le point de départ. C'est de dire, si on réforme l'industrie, c'est pour pouvoir justement être cohérent. Si on réforme la politique commerciale, c'est pour pouvoir porter des objectifs climatiques. Si on réforme la politique de concurrence, si on veut qu'il y ait du fret ferroviaire en Europe, si on veut qu'il y ait des énergies renouvelables, un réseau électrique européen, tout ça, tout ce qu'on fait dans tous les domaines, la position française, c'est d'être cohérent avec la transition climatique.
Merci Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des affaires européennes et pas future commissaire en lieu et place de Sylvie Goulard.
Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je crois que ce que vous avez entendu, c'est surtout mon engagement à faire que ça avance et les discussions qui se passeront entre Ursula von der Leyen et président Macron, je crois que pour l'instant, ne me concernent pas du tout.
D'accord, donc c'est pas non, mais...
C'est pas mon travail aujourd'hui voilà. Et ça me passe très très haut.
Et ça vous passe au-dessus de la tête pour l'instant. Merci encore d'avoir été au micro d'Inter.